Mesdames et messieurs de la Nation Sainte, du royaume du Père éternel, Sion, son peuple, aujourd'hui, consécutivement à l'audio passé, nous allons examiner en profondeur ce qui est arrivé à la parole de la révélation divine entre la fin de la mission de Jésus, c'est-à-dire de 0 à l'an 2000, de Jésus à l'avènement du Père éternel, à l'avènement du royaume des cieux en l'an 2000. Vous savez déjà que dès la disparition de Jésus, Satan la bête était venu semer l'ivraie dans son champ, c'est-à-dire l'Antéchrist ou l'Antichrist, comme annoncé. Comment cela s'est-il réellement passé? Dans la vision de Pierre à Joppé, le Créateur lui avait ordonné de manger des aliments purs et impurs mélangés. Mais Pierre avait rétorqué qu'il n'avait jamais mangé d'aliments impurs depuis sa naissance. Vous devez ici savoir qu'en matière de connaissance divine, les aliments représentent les paroles et les breuvages, les connaissances contenues dans ces paroles. Dans la première alliance cachetée, le Créateur, en parlant des aliments purs et impurs, voyait plutôt en décacheté les paroles et connaissances pures et impures. Le Créateur indiquait par là que son peuple ne devait se nourrir que des paroles et des connaissances pures, et non des paroles et des connaissances impures. Qu'est-ce que la pureté? La pureté est la qualité d'une chose qui est pure, sans mélange, et l'impureté, c'est ce qu'il y a dans une chose d'impur, d'étranger, qui l'altère ou la gâte. Donc, une parole pure est une parole sans mélange. C'est cela le bon grain. Une parole impure, c'est quelque chose d'étranger qui vient s'ajouter à la parole pure pour l'altérer et la gâter. C'est cela l'ivraie. Le mélange du bon grain et de l'ivraie produit donc une parole impure, une connaissance impure, bref, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, nous avons donc deux choses, la connaissance et l'ignorance. La connaissance est pure lorsqu'elle n'est pas mélangée à l'ignorance, et l'ignorance est pure lorsque elle n'est pas mélangée à la connaissance. Mais lorsque la parole divine est mélangée aux fausses connaissances divines, pour le Créateur, elle devient de l'ignorance et de l'ignorance pure. En déclarant à Pierre que ce qu'il avait qualifié de pur devenait pur, ce mélange d'aliments purs et impurs ne produisit pas la connaissance pure, mais plutôt l'ignorance pure. Le Créateur disait à Pierre, sans qu'il ne l'eût compris, qui véhiculerait la parole mélangée, bon grain et ivraie, et que lui, le Créateur, l'avait décidé ainsi. Malheureusement, comme c'était une parole cachetée, Pierre fut désorienté et pensa qu'il s'agissait des êtres humains. Mais en ce qui concerne Paul, vous savez déjà que le Créateur lui avait mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour le souffléter. Un ange de Satan, C'est un ensemble de fausses connaissances divines. Car Satan est un nom collectif qui désigne toutes les fausses connaissances divines, tout comme la bête, le dragon, le serpent ancien et le diable. Et c'est cet ange de Satan qui est l'écharde dans la chair. Il ne s'agit pas ici de la chair physique de Paul, mais de la chair connaissancielle qu'il détenait, car la parole que Jésus leur avait laissée fut une simple parole sans connaissance, puisqu'il était cacheté, donc une simple chair sans esprit, sans son esprit, le Père éternel, qui n'était pas encore révélé à l'humanité. Une écharde est un piquant de chardon ou petit éclat piquant de matériaux rigides. Ce sont donc les fausses connaissances divines que Paul va associer à la chair connaissancielle pour donner ainsi naissance à de fausses explications, de fausses interprétations, c'est-à-dire des préceptes qui renient la parole christique. Et c'est cela que va faire aussi la parole mélangée de Pierre. Elle va renier le vrai Christ en faveur de l'ivraie, des aliments impurs, le faux Christ ou l'antéchrist. Et voici maintenant comment le Créateur avait ordonné le travail de la bête et son ivraie. Voici ce qui est dit dans Apocalypse 11, 3 à 4. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. D'abord, 1260 jours font 42 mois, 3 ans et 6 mois, c'est-à-dire 3 jours et demi. Qui sont les deux oliviers ou les deux chandeliers? La réponse vous est donnée dans Zacharie 4, 14. Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Nous savons déjà qu'un seul est Seigneur, le Père éternel, le Père des cieux, c'est lui le Seigneur de toute la parole terrestre. Et qui sont ces deux oints? Vous devez retenir aujourd'hui qu'aucun être humain n'est oint de l'Éternel. Ce sont plutôt ses paroles révélées qui sont ses oints. Et pour la Jérusalem terrestre connaissancielle, le Créateur avait envoyé ses deux premiers oints terrestres, à savoir la parole mosaïque et la parole christique, avec leur prophétie d'accompagnement. Ce sont ces deux premiers livres de révélation. Ils vont donc prophétiser, c'est-à-dire enseigner, pendant 3 jours et demi. Ils sont revêtus de sacs, puisqu'ils sont revêtus de vraies connaissances. Ils sont dépourvus de leur vraie connaissance divine, car ils étaient cachetés. Mais ils sont revêtus d'ivraies, de fausses explications, de fausses interprétations, leurs faux habits. Ces premiers 3 jours et demi vont dans le concret faire 350 ans après Jésus. Pendant ce temps, le bon grain est enseigné en même temps que l'ivraie, mais l'ivraie n'a pas encore détruit le bon grain. C'est ce qu'a dit aussi Daniel 9, verset 27 en ces termes. Il fera une alliance solide avec plusieurs pendant une semaine, c'est-à-dire pendant 7 jours. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur lui. Pendant donc 3 jours et demi ou 350 ans, le dévastateur Satan fait des alliances avec plusieurs, c'est-à-dire il fait accepter ses fausses connaissances à plusieurs. Mais il ne fera pas encore cesser le sacrifice et l'offrande. Quel est ce sacrifice et quelle est cette offrande? Ben, ce sont les deux premiers livres de révélation purs qui servaient de sacrifice et d'offrande à l'Éternel lorsque on les mettait en pratique, le bon grain de Moïse, le bon grain de Moïse et le bon grain de Jésus. Ce sont là le sacrifice et l'offrande. C'est après les 3 premiers jours et demi qui, dans notre calendrier, vont faire 350 ans après Jésus, que les dévastateurs les fera cesser. C'est-à-dire, à partir de l'an 351, le dévastateur a fait cesser déjà le sacrifice et l'offrande. En effet, voici ce qui est énoncé dans Apocalypse 11, 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Mais voici ce même verset autrement présenté dans Apocalypse 11, 7 en ces mots. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Vous avez déjà relevé que le temple de Jérusalem n'était qu'une annonce cachetée du vrai temple connaissantiel, avec les correspondances suivantes. Parvis extérieur, la parole mosaïque et ses prophéties d'accompagnement. Parvis intérieur, la parole christique avec la prophétie de l'apôtre prophète Jean. Les deux paroles étaient déjà révélées. Les deux parties suivantes, c'est-à-dire le lieu saint, la parole révélée Saint-Esprit, et le lieu très saint, la parole a révélé Père éternel, ne pouvaient être mesurées car elles n'étaient pas encore révélées au monde en ce moment-là. Le parvis donc, dans son entièreté, qui était déjà révélé, fut donné aux nations qui vont fouler aux pieds la ville sainte terrestre, entendez la Jérusalem terrestre. Mais quelles sont ces nations destructrices? Voici ce qui est énoncé dans Ézéchiel 30, verset 3, en ces termes. Car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux. Ce sera le temps des nations. Cela veut dire que les deux premiers livres de la révélation divine, sur décision du Créateur, seront donnés aux connaissances ténébreuses, aux fausses connaissances divines qui vont les fouler aux pieds. En clair, de l'an 350 à l'an 2000 après Jésus, durant toute cette période, Satan la bête va faire la guerre à ces deux révélations, va les vaincre et les tuer. En d'autres termes, il va fouler aux pieds toute la parole de la révélation divine d'hier durant 1650 ans. Si les 3 premiers jours et demi ont fait 350 ans, les 3 derniers jours et demi ont fait 1650 ans. Pourquoi l'an 2000, la fin de cette période? C'est parce que, à partir de l'an 2000, que le Créateur a choisi une bouche et un porteur pour le Père éternel, pour qui il avait déjà commencé à décacheter progressivement la parole divine d'hier, il a commencé à ouvrir les seaux de sa révélation divine, qu'il a cachetée cette fois en dedans et en dehors, à l'insu de toute l'humanité, même de Kinshasa, ville dans laquelle se déroulait cette œuvre grandiose mais silencieuse du Créateur. Ces 1650 ans sont dépeints autrement dans Daniel 9, 24 à 26 en ces mots. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Voici comment le Père éternel décachette ce passage. Avant que le Père éternel ne soit oint par le Créateur pour sceller la bête et son faux prophète, pour amener la justice éternelle qui efface l'iniquité, pour faire cesser les transgressions connaissancielles et mettre fin au péché connaissantiel, il faut 70 semaines ou 7 jours de tribulation du peuple et de la ville sainte de l'époque, c'est-à-dire des deux premiers livres de la révélation divine. Pendant les 7 jours, la bête avait autorité sur les hommes de toute langue, toute tribu, tout peuple et toute nation, car elle avait autorité sur toute la parole de la révélation divine qui recherchait. Et ces 7 jours font 2 millénaires, comme il vous avait été dit plus haut. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, c'est-à-dire 7 jours. Mais quand avait-on annoncé que Jérusalem serait rebâtie? Voici ce que Jésus annonce dans Jean 2, 19. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. Mais la bête vient ajouter, la bête vient ajouter une ivraie dans Jean 2, verset 21 en ce mot. Mais il parlait du temple de son corps, ce qui est faux. Jésus parlait plutôt du parvis extérieur qui allait être complètement détruit par la bête et les nations pendant 2 millénaires, pour qu'au 3e millénaire que voici, le Père éternel vienne relever son temple terrestre, en ressuscitant ces 2 révélations terrestres et en les faisant passer de choses terrestres à choses célestes. C'est cela leur glorification. Il ne s'était donc jamais agi du corps physique de Jésus. Et c'est ce verset mensonger qui a annoncé, qui a amené les conciles à fabriquer la fausse résurrection de Jésus, la résurrection invisible de Jésus, ainsi que la fausse Pâque. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, c'est-à-dire que la Jérusalem sera rebâtie après la grande tribulation. Dans 62 semaines, 6 plus 2 font 8, c'est-à-dire au huitième jour qui suit les 7 jours de la tribulation, ce qui équivaut au troisième millénaire que voici. Mais avant le huitième jour, à la fin des enseignements de Jésus, un oint fut retranché et il n'eut pas de successeur. Qui est-il ce oint? La réponse est dans Jean 16, 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. L'oint qui fut retranché, c'est la parole divinité Fils, dont Jésus fut le porteur et la bouche. Et il n'eut pas de successeur. Cela veut dire que le bon grain véritable et pur rentra au Père pour ne laisser dans le monde que le peu de paroles que les apôtres ont pu retenir et qui fut immédiatement impurifié par la bête. Ce passage est corroboré par les dernières paroles de Jésus. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Cela veut dire, Père, je remets la révélation divine que tu m'as donnée entre tes mains. Je remets le Christ entre tes mains. Maintenant donc, après les 7 jours de la grande tribulation, voici le huitième jour. Voici venu le huitième jour, le troisième millénaire, qui vous apporte la circoncision des cerveaux, c'est-à-dire le jour qui vient ôter de vos cerveaux la marque de la bête et transcrire le Père éternel, le sceau de Dieu pour votre salut. Mais dans le concret, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire au terme des 3 premiers jours et demi qui ont fait 350 ans. OK? Dans le concret, le chef de ce peuple, c'est Constantin Ier. Et son peuple, ce sont les conciles. C'est l'empereur Constantin, ses héritiers et les conciles qui commencèrent leur œuvre de destruction du parvis de la Jérusalem qu'on essentielle, terrestre, qui fut également le sanctuaire de la parole divine terrestre révélée à cette époque, à partir de l'an 325, après Jésus, bien sûr. Ils vont ainsi, pendant tout ce temps, traficoter les Écritures. Je reviens un peu plus haut. Dans le concret, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire au terme des 3 premiers jours et demi qui ont fait 350 ans. À partir de 350 ans après Jésus-Christ, l'empereur Constantin, ses héritiers et les conseillers commencèrent leur œuvre de destruction du parvis de la Jérusalem qu'on essentielle terrestre, qui fut également le sanctuaire de la parole divine révélée à cette époque. Et c'est vraiment à partir de l'an 325, mais surtout à partir de l'an 351. OK? Entre le moment où Constantin avait rassemblé tous les manuscrits qui circulaient en ce qui concerne la parole divine, et le moment où on vient imprimer la première Bible, c'est-à-dire, il s'est passé 15 siècles. Donc, ils ont eu tout le temps pour traficoter les Écritures en fonction de ce qu'ils arrêtaient dans les conciles. Avant de parler d'eux, sachez que lorsque Gutenberg imprime la Bible au 15e siècle, vous devez retenir que, avant cette date, les manuscrits et les parchemins qui circulaient et voyageaient, et certains étaient même anonymes, étaient détenus par Constantin et les conciles. Constantin Ier, devenu empereur de l'Empire romain d'Occident et d'Orient, révérait le soleil comme Dieu. Afin de pacifier le culte chrétien, devenu son inclination, décida de réunir en 325 un conseil œcuménique à Nicée pour donner au christianisme une ligne directrice et tirer au clair par la discussion la question de l'arianisme qui refusait à Jésus le droit d'être égal au Père et au Saint-Esprit du fait de sa chair mortelle et de sa naissance, par exemple. Là n'est pas notre propos. D'ailleurs, nous allons nous intéresser à quelques pensées qu'ils ont introduites et imposées au christianisme. Par exemple, qui a fait du dimanche un jour de repos? C'est l'empereur Constantin qui a fait du dimanche le jour du soleil, le dieu qu'il vénérait, par une loi du 7 mars 321 en son hommage. Constantin a donc imposé au monde entier finalement la célébration de son dieu soleil. Vous comprenez par là qu'aucune révélation divine ne l'avait ordonné. C'est donc quelque chose d'étranger que l'on a associé à la parole divine. D'où vient la fête de Noël? Noël était une fête païenne pour célébrer le dieu soleil, dieu de Constantin. Et son héritier Théodose III, l'officialisa pour remplacer les fêtes païennes du solstice d'hiver. Pour remplacer des festivités païennes et garder la date du 25 décembre pour plaire à l'empereur, le christianisme décida de fêter la nativité de Jésus à cette date. Aucune révélation divine n'avait ordonné de fêter le faux anniversaire de la naissance de Jésus. Le Concile de Nicée proclame la Sainte Trinité et sous le règne de Théodose Ier, l'édit impérial est signé en 380, imposant la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la fausse, comme vous le savez déjà, comme l'a expliqué la révélation Père éternel. Au troisième concile d'Éphèse, Marie est déclarée mère de Dieu, alors que dans toute la parole de la révélation divine, ce sujet n'avait jamais été évoqué. D'ailleurs, Nestorius refusa d'appeler Marie mère de Dieu. Au premier concile de Constantinople, en 381, le concile décrète que Jésus s'est incarné de l'Esprit Saint et de Marie, ce qui est faux, car le Saint-Esprit qui ne connaissait même pas à l'époque est une parole divinité, donc dépourvue de sperme pour féconder Marie. Et ils adoptent la formule suivante, toujours sans révélation divine. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Né du Père avant tous les siècles, il est Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature, et par lui tout a été fait. Ils ajoutent des pensées étrangères à la révélation divine. Et c'est cela l'ivraie, et c'est du pur mensonge. D'après Jésus lui-même, un seul est Père et Seigneur, le Père des cieux, le Père éternel. Jésus n'est pas le Fils unique du Créateur, mais plutôt le Père éternel, comme annoncé dans Ésaïe 9, 5. Et Jésus ne pouvait être né du Créateur, qui est roi de Salem, pendant que son Fils unique, la parole divinité Père éternel, est le prince de Salem, qui est sans père, ni mère, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, et qui n'a pas de généalogie. Et qui n'a pas de généalogie. Donc, qui ne peut avoir de fils qui soit de sa nature. Il ne pouvait être lumière, car le prince du monde de la lumière, c'est-à-dire de la vraie connaissance divine, c'est le Père éternel. Jésus ne pouvait être engendré, car c'est Marie qui a accouché de lui. Il est donc créature, comme toutes les créatures humaines, née de Marie et de Joseph. Il ne peut donc être de même nature que le Créateur, dont la nature est inconnue et éternellement inconnaissable. Au Concile de Constantinople III, en 680 jusqu'en 680, en 680 jusqu'en 681, après Jésus, pardon, il décrète que Jésus avait deux volontés, comme il avait deux natures, humaine et divine, et décide de l'union hypostatique, c'est-à-dire Jésus avait deux natures unies entre elles, sans confusion ni changement, sans division ni séparation. C'est faux, car Jésus, corps physique, n'était que le porteur et la bouche de la parole du divinité Fils qui est sortie du Père éternel et qui depuis est rentrée en lui. Lorsque le Fils de l'homme connaissant ciel parlait de la terre, du ciel et des cieux, il ne faisait pas allusion à la terre, au ciel et aux cieux physiques, mais à la terre, au ciel et aux cieux connaissantiels. En effet, les cieux connaissantiels sont la parole supraceleste qui contient le Père éternel, sa connaissance divinité. Le ciel connaissantiel est la parole céleste ou la Jérusalem céleste qui contient le Saint-Esprit, sa connaissance divinité céleste. Et la terre connaissantielle, la parole terrestre, la Jérusalem terrestre, qui contient la parole divinité Fils, le Christ, que Jésus avait enseigné. Maintenant, en fabriquant l'ascension de Jésus, c'est-à-dire la montée au ciel physique, il fabrique donc une ivraie. En fabriquant l'assomption, c'est-à-dire la montée au ciel physique de Marie, ils inventent ainsi une ivraie, tout comme la montée des saints et des morts physiques au ciel physique est également une ivraie. Ils les ont envoyés au royaume des cieux physiques, qui n'a rien à voir avec les connaissances divines. Aujourd'hui, le royaume des cieux connaissantiels, c'est-à-dire les révélations Père éternel et Saint-Esprit, viennent de nous être données, viennent de nous être envoyées, viennent de nous être révélées. Alors, où est la place de Jésus, de Marie, des saints et de tous les morts qui vont au ciel physique? Voici la vraie Sainte Trinité, qui est constitué de la parole divinité Père éternel, de la parole divinité Saint-Esprit et de la parole divinité Fils, le Christ. Cette Sainte Trinité est homogène et concordante. La leur, constituée du Père, être individuel divin imaginaire, du Saint-Esprit, être individuel divin imaginaire, et de Jésus corps physique, est donc fausse, car c'est un assemblage de briques et de brocs discordants. La révélation Père éternel va continuer à vous dévoiler toutes les ivraies au fur et à mesure que nous allons progresser, car elle ne peut pas tout dévoiler en une seule fois. Ainsi donc, la libation des 20 vieux, mais clarifiée de ce jour, est épuisée. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Continuez à suivre les paroles bénédictrices du Père éternel, qui anéantissent le voile qui voile tous les peuples et la couverture qui couvre tous les peuples et qui anéantissent l'ignorance pour toujours. Merci beaucoup.